RFI, 9h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Martin Guez.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous.
Dans 10 minutes, suite de notre édition spéciale sur la mort du pape François et sur son héritage. Vous en parlez aussi dans votre journal, Martin, après la sidération de sa disparition. Hommage et recueillement pour François.
Le pape du peuple, le pape des pauvres, le pape des opprimés, la mémoire du pape François saluée dans toute la presse internationale ce matin. Et dans le monde entier, les fidèles se sont rassemblés à Rome et à Buenos Aires. Recueillement aussi à Jérusalem ou à Gaza, la cause des Gazaouis qui tenait particulièrement à cœur au souverain pontife, vous l'entendrez. Au Soudan, la ville de Niala, dans le viseur de l'armée, qui entend la reprendre aux mains des forces de soutien rapide. Et puis enfin, notre dossier ce matin nous mènera au Texas, où comme partout aux États-Unis, les étudiants sont inquiets. Alors que le président Donald Trump est en guerre ouverte avec le monde universitaire, on retrouvera Nathanaël Vitran dans quelques instants. Premier cierge, première prière pour le pape François, que ce soit à Buenos Aires, à Kinshasa, à Bangui et bien sûr à Rome, la planète entière qui pleure le souverain pontife, mort hier à l'âge de 88 ans. Des suites d'un AVC fait savoir le Vatican. En Argentine, un deuil national d'une semaine a été décrété. Et à Gaza aussi, les chrétiens sont en deuil. Le pape François, qui s'était particulièrement illustré pour son soutien aux Palestiniens et qui avait reconnu dès 2015 l'État de Palestine, François, qui n'a cessé durant ses 12 ans de pontificat de dénoncer la situation humanitaire des Gazaouis. Il avait renouvelé ses appels à la protection des civils, notamment des enfants. Gaza, dont François prenait des nouvelles tous les soirs. Un geste impossible à oublier pour George Anton, responsable de Caritas à Gaza. Notre correspondante Amira Suilem a pu échanger avec lui.
Il reconnaissait les voix, connaissait leurs prénoms. Le coup de fil du soir du pape, un moment phare de la vie de George Anton jusqu'à hier.
Le pape appelait tous les soirs à 20h, heure de Gaza. On lui a tous parlé à tour de rôle. À chaque fois qu'il nous appelait, il disait « N'ayez pas peur, vous êtes dans mon cœur, vous êtes dans mes prières, je suis avec vous, je resterai avec vous. Et priez pour moi comme je prie pour vous. » Tu te rends compte? Le pape François nous demandait de prier pour lui. Gaza était essentiel à sa vie, autant que l'eau, autant que la nourriture. Il avait ce besoin de parler avec Gaza.
Comme 450 autres personnes, George Anton s'est réfugié avec son épouse et leurs trois filles dans l'église catholique de Gaza. Alors que la menace plane, ils ont tenu à organiser dès hier soir une messe en hommage au pape François.
Lors de cette messe, le prêtre de notre paroisse a dit qu'il espérait que le premier miracle du pape François, depuis les cieux, serait d'apporter la paix à Gaza. Cette paix pour laquelle il s'est battu alors qu'il était sur terre. J'aimerais demander au monde de regarder Gaza avec les mêmes yeux que le pape François. Les yeux de l'amour et de la reconnaissance pour ce peuple palestinien qui a le droit de vivre dans la dignité, l'indépendance et la paix.
Bien plus qu'un pape, c'est l'un des leurs que les chrétiens de Gaza disent avoir perdu. Amira Suilem, Jérusalem, RFI.
Les obsèques du pape François qui devraient avoir lieu entre vendredi et dimanche, obsèques auxquelles assisteront Volodymyr Zelensky, Donald Trump ou encore Emmanuel Macron. La date doit être communiquée ce matin après une première congrégation générale qui aura lieu dans quelques minutes. Les cardinaux qui auront ensuite la lourde tâche d'élire son successeur dans les prochaines semaines. La disparition du pape François, on y revient juste après ce journal avec Andréane Mellard et ses invités. Édition spéciale à suivre jusqu'à 8h, temps universel. Rassemblement aussi à Notre-Dame du Congo à Kinshasa ou à Notre-Dame de l'Immaculée Conception à Bangui, la RDC comme la Centrafrique où François s'était rendu, lui qui avait effectué au total 5 visites sur le continent africain durant ses 12 années passées au Saint-Siège, notamment au Soudan du Sud. En 2023, il s'était opposé au colonialisme économique et aux conflits armés. Direction à présent le Soudan dans ce journal et précisément la ville de Niala, capitale du Darfour Sud, deuxième ville du pays après Khartoum. Niala, dans le viseur de l'armée soudanaise, sous contrôle des FSR depuis octobre 2023. C'est une ville clé au carrefour de la Centrafrique et du Soudan du Sud. L'armée qui veut surtout éviter la partition du Soudan et que Niala devienne la base du gouvernement parallèle des FSR ou d'Ibrahim.
Tout à Niala indique que la situation se dirige vers une confrontation entre l'armée et les paramilitaires. Selon des informations concordantes venant de l'intérieur de la ville, les forces de soutien rapide sont en train de fortifier leur position. Elles creusent des tranchées et posent des mines tout autour de Niala, surtout autour de l'aéroport. Les habitants se montrent inquiets et s'attendent au pire. Les renseignements militaires soudanais indiquent que l'aéroport de Niala est largement utilisé pour recevoir recevoir des armes et de mercenaires, mais aussi pour évacuer des blessés haut gradés des FSR vers Dubaï. Soudan Tribune se basant sur des fuites du prochain rapport du groupe des experts de l'ONU, accuse Abu Dhabi d'avoir doté les FSR d'un système de défense antiaérien moderne. Il s'agit, selon des experts militaires, du FK-2000 chinois. Information que des images satellites récentes confirment, le système est effectivement déployé près de l'aéroport de Niala, le plus important du Darfour. D'autres armes sophistiquées apparaissent sur ces images satellites, des radars puissants et un système de brouillage du signal des drones.
Explication signée Ouda Ibrahim du service Afrique de RFI.
RFI.
Il est 10h05 à Kiev. Difficile de croire à une paix durable en Ukraine après cette trêve express de 30 heures pour les fêtes de Pâques ce week-end. Un cessez-le-feu loin d'avoir été respecté et Moscou qui a repris ses frappes ce lundi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit de son côté vouloir une réponse claire de la Russie sur sa proposition de trêve concernant les frappes sur les sites énergétiques en Ukraine. Direction les États-Unis, à présent, où Donald Trump est entré en guerre avec le monde académique, notamment avec Harvard. La suppression des subventions de la célèbre université a beaucoup fait parler. Harvard va d'ailleurs poursuivre l'administration Trump en justice. Mais cela touche des établissements de tout le pays. Et on retrouve à ce sujet notre envoyé spécial au Texas, Nathanaël Vitran. Nathanaël, comment les étudiants vivent ce moment sur les campus américains?
Écoutez, le mot que j'ai le plus entendu depuis que je suis arrivé ici, c'est le mot peur, et particulièrement dans le contexte des universités. Il y a d'abord évidemment les étudiants internationaux qui ont peur, comme c'est déjà arrivé à des milliers d'entre eux aux États-Unis et à plusieurs centaines ici au Texas, de voir leur visa révoqué pour des raisons parfois obscures, une infraction au code de la route, ou bien pour avoir exprimé une opinion qui déplaît à l'administration américaine. Écoutez Sophia, une étudiante pakistanaise rencontrée lors de manifestations anti-Trump à Austin.
Les étudiants impliqués dans les mouvements pro-palestiniens sont devenus une cible. Les services migratoires les enlèvent et les font disparaître. Une de mes amies a vu son visa révoqué et a été condamnée à ce que je qualifierais d'exil politique.
Et comme me l'a confirmé Matthew Thompson, un avocat de Houston spécialisé dans le droit à l'immigration, même les profs ont peur.
Le monde académique est en panique. Des gens qui, en théorie, n'ont aucune raison d'être inquiets, qui ont le statut de résident permanent, n'osent plus voyager, même pour assister à une conférence à l'étranger, de peur qu'on ne les laisse parvenir.
Et les citoyens américains dans le monde universitaire, comment vivent-ils la situation, Nathanaël?
Écoutez, depuis que l'administration a interdit certains mots, certains sujets, règne ce qu'il faut bien qualifier de censure. Sophia Alvarado, étudiante en journalisme à Austin, l'a déjà constaté.
J'écrivais un article sur les feux de forêt au Texas et je suis tombée sur une étude scientifique qui mentionnait le lien entre le réchauffement climatique et les feux de forêt. Mais quand j'ai contacté l'auteur, j'ai eu la surprise de l'entendre me répondre que dans le contexte politique actuel, elle n'avait pas le droit d'en parler.
Une situation qui inquiète John Schwartz, il est son professeur.
Des sources qui refusent de parler, ça arrive tout le temps. Mais là, ce ne sont pas des gens qui disent « je n'ai pas envie de vous parler », ce sont des gens qui disent « je ne peux pas vous parler, j'ai peur de vous parler ».
Malgré tout, lui veut rester optimiste.
George Orwell a écrit 1984
comme un avertissement. Mais il y a des gens dans cette administration qui semblent s'en servir comme d'un manuel. Ils n'aiment pas le monde universitaire. Ils rêvent de le transformer en outil de propagande conservateur. On a vu beaucoup de gens et d'institutions mettre le genou à terre, mais heureusement, il y a aussi un mouvement de résistance face à cette tentative de changer notre culture. J'espère que d'autres universités suivront l'exemple d'Harvard.
Voilà, la peur n'a pas disparu, mais elle s'accompagne désormais sur les campus d'une volonté de résister.
Merci beaucoup, Nathanaël Vitran, envoyé spécial de RFI au Texas, Haïti. Proche du point de non-retour, et il y a urgence avant que la situation ne soit irréversible. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché hier sur le dossier haïtien. La représentante onusienne sur place craint que sans réaction ni aide de la communauté internationale, Haïti ne s'enlise encore un peu plus dans le chaos. Et puis un mot de football pour terminer, programme allégé. Hier soir, les quatre rencontres de Serie A qui ont été annulées après l'annonce de la mort du pape. Le foot mondial qui a rendu hommage à François. Tu vas nous manquer, écrit Lionel Messi sur son compte Instagram, accompagné d'une photo avec Jorge Mario Bergoglio, la superstar du foot mondial, qui le remercie d'avoir rendu le monde meilleur. RFI, 9h10 à Paris, Andréane Mélard et ses invités qui sont de retour pour la suite de notre édition spéciale.
Merci Martin Guèze, 9h10 à Paris. Édition spéciale sur RFI. On continue de parler de la mort du pape François, alors que la place Saint-Pierre de Rome a vibré hier soir entre recueillement, prière, chant, au moment même de la mise en bière du pape. On s'intéresse ce matin à son héritage. Que laisse-t-il derrière lui après ces 12 années de pontificat? Un pape réformiste pour sa liberté de ton, sa posture, ses changements opérés au sein de la curie, les sujets qu'il a mis sur le devant de la scène. C'est ce dont on a parlé cette dernière heure avec nos invités. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez.
Édition spéciale sur RFI.
Et toujours avec nous ce matin pour cette édition spéciale, Martin Dumont, historien du catholicisme, Xavier Lenormand, chef de rubrique religion et spiritualité au Pèlerin, Pierre Diarra, théologien, anthropologue des religions, consulteur du Dicaster pour le dialogue interreligieux, par téléphone également avec nous, Geneviève Delru, spécialiste des religions, ancienne journaliste à RFI, et puis Dominique Volton, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Bonjour et merci d'être là. Alors que les premières images du pape François dans son cercueil circulent ce matin, on commence à les voir, hein, ces images diffusées par le Vatican. La mort du pape François est évidemment au cœur de la presse internationale ce matin. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Et c'est à la une des journaux du monde entier.
Hein. Oui, adieu au pape du bout du monde, soupire la Nation à Buenos Aires, ville natale de François. Les catholiques pleurent la voix éteinte des dépossédés, clame le Washington Post. Le pape des pauvres est parti, renchérit l'Orient le jour à Beyrouth. Adieu, saint humaniste, lance le soleil à Dakar. La Repubblica à Rome fait on ne peut plus sobre avec cette simple épitaphe. Jorge Mario Bergoglio, 1936-2025. Enfin, Libération à Paris se démarque avec ce Perdimus Papam.
Libération qui pointe un bilan en demi-teinte.
Avec la mort de François, s'éteint une des rares voix capables de fissurer le carcan qui enserre l'Église depuis des siècles. Fissuré seulement car, estime le journal, malgré tous les espoirs placés par certains dans ce pape désireux de dédier son pontificat aux pauvres et aux périphéries, l'Église n'aura pas opéré de réelle révolution sous son règne. Le soir, à Bruxelles, est tout aussi partagé, un vent de fraîcheur, mais aussi une cassure dans le pouvoir opaque du Vatican. Dès le début, le pape des pauvres frappe les imaginations en marquant l'ouverture d'une ère nouvelle, mais au final, l'habit ne fait pas le changement, affirme le quotidien belge. La place des femmes dans l'Église, plus importante en nombre et au poste à responsabilité, n'a pas évolué dans la doctrine, pas davantage que celle des homosexuels. Sur les thèmes éthiques, euthanasie, avortement, procréation assistée, c'est le conservatisme qui reste de rigueur.
Reste que François a été un pape audacieux dans sa défense des migrants et de l'environnement, tempère El País à Madrid.
À une époque marquée par la montée du populisme qui a fait de la xénophobie son étendard, François a inlassablement appelé à la solidarité avec les immigrés, rappelle le quotidien espagnol. Il a constamment appelé les dirigeants mondiaux à adopter des politiques d'immigration humaine, tout en critiquant la criminalisation des demandeurs d'asile. Le Guardian à Londres est sur la même ligne. Alors que les mouvements nationalistes repliés sur eux-mêmes tiraient progressivement la boussole politique occidentale vers la droite, François est devenu un contrepoids de plus en plus essentiel sur des questions interconnectées telles que les migrations, le réchauffement climatique et le sort des pays du Sud. Laudato si, son encyclique passionnée consacrée au défi de l'urgence climatique fut un tour de force morale et philosophique. Qui plus est, pointe la croix à Paris, François fut le premier pape à prendre acte du grand basculement de l'Église catholique en dehors de l'Occident, identifiant clairement l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique comme synonymes de son avenir. Alors, François est-il parvenu à « réparer » entre guillemets l'Église, s'interroge le Figaro. Du moins, cet homme à la voix prophétique s'est-il efforcé de secouer énergiquement une maison qu'il jugeait assoupie, une situation à laquelle l'infatigable veilleur de Dieu, même affaibli, ne s'était jamais résigné.
Qui pourra lui succéder? C'est la question. Les journaux s'interrogent déjà aux quatre coins du monde.
Et certains avancent des noms, à l'instar du Washington Post, qui cite Anders Arborelius, évêque de Stockholm, Charles Mongbo, évêque de Rangoon, en Birmanie, François-Xavier Bustillo, évêque d'Ajaccio, en France, Fridolin Ombongo Bessungu, évêque de Kinshasa, au Congo démocratique, ainsi que plusieurs prélats italiens, Pietro Parolin, Matteo Maria Zuppi, Mario Grec, ou encore le Philippin Louis Staglé et le Hongrois Peter Erdo. Succession du pape François, quelle chance pour l'Afrique, s'interroge le Djeli en Guinée. Les prétendants ne manquent pas, relève le site conakryen, le Guinéen Robert Sarah, 79 ans, le Congolais Fridolin Ombongo Bessungu, on vient d'en parler, 65 ans, le Ghanéen Peter Turkson, 76 ans. Si l'Église catholique venait à miser sur l'un d'entre eux, cela parachèverait une ouverture amorcée avec le choix du pape François et prolongée par les idées progressistes qu'il a portées. Reste à savoir, affirme encore le Djeli, si l'Église catholique est prête à franchir un tel cap, celui de choisir un pape noir et africain, issu du sud du Sahara, ce serait alors un symbole fort et une forme de justice à l'égard d'un continent dont l'expansion démographique exceptionnelle pourrait de plus en plus peser dans la vitalité de l'Église catholique.
Frédéric Couteau pour la revue de presse internationale. Merci à vous. Dominique Volton, vous êtes en ligne avec nous sur RFI. Vous connaissiez bien le pape François. Vous avez co-écrit un livre avec lui et pour cela, vous avez eu plusieurs entretiens avec le souverain pontife. Comment était-il? Quel souvenir gardez-vous de lui?
Oui, j'ai quand même une chance extraordinaire parce que je l'ai quand même vu pendant plus d'un an, 1h30 à 2h par mois. Et j'ai vu dans toutes les saisons et dans tous les états psychologiques. Écoutez, ce qui m'a le plus frappé, c'est le sens de l'humour, l'ironie, la gentillesse et la colère. Je crois que un homme en colère contre les injustices, contre la bêtise, contre la méchanceté, et en même temps une forme de douceur et cet humour, parce que c'est long, plus d'un an à discuter avec quelqu'un, d'autant qu'on ne dialogue jamais avec un pape. C'est pas le mode de relation, c'est je crois la première fois que ça se faisait. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire cette rencontre, mais elle a été extraordinaire du point de vue de la rencontre humaine et naturellement intellectuelle et politique. Mais une chose tout de suite à dire, c'était un Italien latino, c'est-à-dire quelqu'un qui gérait deux cultures, naturellement la culture de l'Europe, contrairement à ce qu'on a dit, il connaissait parfaitement les enjeux européens puisqu'il était fils italien, et c'était surtout un latino, ce que nous les Européens ne l'avons pas forcément bien compris, c'est-à-dire qu'il était très en colère contre les inégalités qui avaient marqué ce continent, la domination des États-Unis, les formes d'impérialisme, les fascismes, et donc par conséquent, pour nous Européens, nous ne le comprenions pas assez, dans ce qu'il représentait d'une colère et d'une hostilité à tous les pouvoirs. Donc c'est le côté humain, humour, aucune illusion sur les êtres humains, ça c'est clair, mais cette espèce d'espoir et puis cette volonté, si vous voulez, de jouer les contacts humains et des jeunes. Et les jeunes, il a quand même parlé tout le temps des jeunes.
Dominique Volton, alors le pape François disait Libération, c'est ce que nous racontait Frédéric Couteau à l'instant, le pape François, une des rares voix capables de fissurer le carcan qui enserre l'Église. On l'a un petit peu évoqué, pardon, cette demi-heure précédente, la réforme de la curie qu'a entrepris le pape François. Xavier Lenormand, j'aimerais qu'on soit quand même très clair sur cette question. Concrètement, pardon de revenir vers vous là-dessus, je vous vois sourire, mais concrètement, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui a changé dans cette curie grâce au pape François? Qu'est-ce qu'il a mis en place?
Alors, il a mis en place beaucoup de choses. Concrètement, qu'est-ce qui a changé? Je pense que le changement le plus notable, c'est celui qu'on évoquait tout à l'heure. Maintenant, des laïcs, y compris des femmes, peuvent diriger des institutions de la curie romaine qui s'appellent les dicastères. Ça, c'est extrêmement novateur. Alors, on peut se dire, c'est un peu anecdotique. Oui, une femme, il y a des femmes premières ministres en France, pas beaucoup, et on se dit toujours, ah, c'est bien, c'est une femme. En fait, là, non, c'est plus important parce que ça marque, un changement de culture théologique de qui peut prendre des décisions dans l'Église. C'est une révolution. On se dit, oui, les laïcs sont aussi capables de prendre des décisions. Il n'y a plus besoin d'être prêtre pour prendre une décision. Ça, c'est un changement extrêmement important. Un autre changement qui me paraît important, mais qui demande à être vérifié s'il va être véritablement appliqué, c'est que normalement, désormais, un prêtre ou une personne qui travaille à la curie romaine est là pour 5 ans et pas plus. Et donc, on verra si c'est appliqué. Si c'est tous les 5 ans, alors il y a tous les inconvénients du renouvellement, c'est-à-dire on perd des habitudes, on perd des pratiques, mais aussi on évite, pardonnez-moi l'expression, de s'encrouter dans des habitudes et des réflexes qui mène, le mot de corruption est peut-être un peu fort, mais même une forme de corruption passive qui est juste de se laisser emporter par le mouvement et en fait de mieux savoir soi-même ce qu'il faudrait faire plutôt que celui qui donne les ordres, qui est le pape.
Donc un autre fonctionnement même de la curie, une autre organisation.
Tout à fait. Et aussi un changement qui me semble très important. Le pape François a dit que la fonction première de la curie romaine, la fonction la plus importante, c'est d'annoncer l'évangile. Avant, le dicastère le plus important, c'était celui qui était chargé de juger des questions de la foi. C'est l'ancienne inquisition, qui s'appelle maintenant la doctrine pour la foi. Donc avant, la curie était d'abord pour dire ça c'est catholique, ça c'est pas catholique. Maintenant, la curie est d'abord là pour dire l'évangile, ce qui est convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle.
Dominique Volton, vous vouliez réagir, vous avez travaillé sur ces sujets.
Oui, d'ailleurs, le livre de ce point de vue-là, c'est un livre très accessible, sans aucun jargon, mais je voudrais juste témoigner sur le problème des femmes dans la curie. Plusieurs fois, je dis, vous n'arriverez pas à nommer une femme dans la curie. Et il me dit, mais si j'y arriverai, je dis, non, regardez, les rapports de force sont impossibles. Et en fait, c'est lui qui avait raison, il a réussi, et ce que vient de dire l'interlocuteur, justement, est absolument vrai, même si c'est une femme, c'est un symbole sur lequel l'Église ne pourra jamais revenir, ainsi que le fait que les postes à la curie sont de courte durée. Et je veux dire, ce fonctionnement interne de l'Église, il était très en colère sur ces prélats qui dormaient tôt, etc. Et il n'a cessé de vouloir, un, rentrer plus de jeunes, deux, les femmes, et trois, grâce à ce qu'ils appelaient la synodalité, c'est le gouvernement interne de l'Église, arriver, et Dieu sait si c'est impossible de faire changer l'Église, parce que c'est forcer la tradition, naturellement, mais lui, il répétait toujours, mais la tradition, c'est le mouvement. Et cette phrase-là, cette antinomie est extrêmement forte, c'est-à-dire qu'il avait parfaitement conscience, et sur le statut des femmes, je reconnais que c'est moi qui avais largement tort, et lui qui avait raison. Et pour beaucoup de choses, c'est comme ça. La même chose sur l'œcuménisme, ou je dirais avec les autres religions, il n'a jamais rien. En fait, ce qu'on pourrait dire, il gérait en parallèle au moins une dizaine de grands combats sur lesquels il ne lâchait rien, ce qui est quand même rare.
Alors, l'ouverture du pape François, on en parle beaucoup depuis tout à l'heure dans toutes ces décisions, en tout cas dans ces prises de parole. En 2023, le pape François a autorisé la bénédiction des unions dites irrégulières et homosexuelles. C'est comme ça que ça a été dit. Martin Dumont, c'est une révolution, cette décision? Alors, ça fait partie des révolutions lancées par le pape François.
Effectivement, qui a été approuvé par le pape, c'est pas lui qui l'a écrit, enfin qui a écrit ce texte. Donc c'était Fiducia Supplicans. Pour être plus précis, c'est pas exactement des couples qui peuvent être bénis. Ce sont deux êtres séparés. Il ne fallait pas que ce soit confondu avec la bénédiction accordée à l'état de vie. Chacun a droit à une bénédiction. C'est ce que le Vatican a tenu à préciser, montrant que le sujet était extrêmement explosif. Et c'est notamment un sujet qui a été extrêmement qui a suscité des polémiques dans un certain nombre de pays. On parlait tout à l'heure de l'Afrique. L'Afrique a extrêmement bien reçu les messages du pape sur la question effectivement du pillage des nations, des différents États africains. La question aussi du rapport à l'histoire. Mais la parution de ce texte romain a été extrêmement mal reçue en Afrique. Il y a des conférences épiscopales qui se sont opposées à ce texte du pape. Mmh. Alors c'était pas une nouveauté strictement, non pas sur la bénédiction, mais sur l'opposition qu'il y avait déjà eu par le passé. On pense à Humanevite, le texte de Paul VI sur la question de la régulation des naissances. Il y avait eu des conférences épiscopales dans le monde qui ou s'étaient opposées ouvertement, ou en tout cas avaient dit... vous faites un peu ce que vous souhaitez en conscience, ça revient aux époux.
Des oppositions qui persistent. Pierre Diarra, on l'entendait, certaines décisions ou certaines validations du pape François ont pu rencontrer de fortes oppositions sur le continent africain, mais pas seulement. Ça a pu être compliqué pour les fidèles en Afrique ou ailleurs, ou pour certains dirigeants religieux d'admettre des décisions qui ont été prises.
Je pense que c'est une manière nouvelle de vivre en Église qui a été manifestée de cette façon. C'est-à-dire, on n'est plus dans une logique où le pape ou Rome décide et puis tout le monde dit amen. On est vraiment dans une logique de dialogue qui a été promis par le pape et qui fait que les conférences épiscopales africaines se sont donner le droit, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent de ce qui vient de Rome. Et c'est pas forcément pour rentrer dans une opposition frontale avec Rome ou avec le pape, comme il a bien rappelé, c'est pas un texte du pape, mais rentrer vraiment dans une logique de dialogue. Et en fait, C'est aussi le fonctionnement nouveau de l'Église, c'est-à-dire les décisions ou les propositions qui viennent de Rome sont données à l'appréciation des conférences épiscopales dans le monde et ils peuvent réagir à partir de leur contexte et à partir de ce qui se vit au quotidien et de l'attente des populations. Ils peuvent justement dire ce qu'ils en pensent.
Alors, le pape François gardait une forme de conservatisme hein, sur certains sujets, je pense notamment à l'avortement, mais aussi sur par exemple le mariage des prêtres. Le pape François avait parlé d'une discipline à ce propos. Il a dit qu'il n'était pas prêt à réviser cette obligation dans l'Église catholique. Alors l'un des grands sujets sur lequel le souverain pontife était très attendu, sur lequel François était très attendu, c'est bien sûr celui des scandales sexuels au sein de l'Église. Hein, les affaires de pédophilie, d'abus sexuels, ces affaires, elles ont été extrêmement nombreuses à être révélées lors de son pontificat. Écoutez-le, le pape François, c'était en 2018 au Chili.
Écoutez les enfants qui regardent le monde avec leurs yeux pleins d'étonnement et d'innocence et attendent de nous de vraies réponses pour un avenir digne. Et ici, je ne peux m'empêcher d'exprimer la douleur et la honte que je ressens face aux dommages irréparables causés à des enfants par certains ministres de l'Église.
Le pape François, en 2018, au Chili, il a marqué un vrai tournant, ce voyage au Chili, dans le traitement par François des abus sexuels dans l'Église. Il y a eu beaucoup de choses depuis, jusqu'au rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. C'était en 2021, mais le pape a été très critiqué sur sa prise de distance par rapport à ce rapport. Xavier Lenormand, on parlait de ce qu'il a fait au sein de la Curie. Le pape François, qu'en est-il de ses actions pour gérer ce vaste dossier épineux dossier des abus sexuels dans l'Église?
Alors en effet, le cas du Chili et du voyage du pape François en janvier 2018 a marqué un véritable tournant dans sa prise de conscience des cas d'abus sexuels commis par des membres du clergé. Personnellement, je crois que le pape François a bien compris la théorie. Alors pardon, c'est un peu bête ce que je veux dire, parce que la théorie peut paraître évidente, mais elle n'était pas pour tout le monde. La théorie, c'est un, la pédocriminalité, c'est mal. Deux, les cas de pédocriminalité doivent être jugés par la justice civile. Ça, c'était totalement novateur, parce que l'Église avait plutôt l'habitude de gérer ces cas en son sein. On en a des exemples par milliers, malheureusement. Et trois, dissimuler ces actes, c'est mal aussi. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement novateur. François a effectivement accompagné les révélations, mais aussi accompagné les révélations que ça avait été dissimulé. Il a eu des propos extrêmement clairs, il a parlé de tolérance zéro, il a dit qu'un évêque qui avait dissimulé un cas de pédocriminalité devrait partir. Sur la théorie, il est extrêmement clair. Après, la pratique est plus compliquée. Je pense que là, il laisse un bilan un peu contrasté, parce que, de fait, des évêques qui ont dissimulé des cas et qui sont en exercice, il y en a encore dans à peu près tous les continents.
Il a mis du temps aussi à s'emparer du sujet, Martin Dumont. Pourtant, il avait assuré vouloir livrer une bataille totale dans ce dossier, mais il a mis du temps à s'en emparer. Il a eu des propos parfois malheureux, des soutiens qui lui ont été reproché.
Oui, le cas du Chili est effectivement emblématique. On aurait pu parler aussi de la question argentine. Mais il a publié quand même un texte extrêmement fort, Vos Estis Lux Mundi. Tout évêque étant convaincu de négligence dans le traitement d'un cas, enfin que si par exemple il a connaissance d'un prêtre ayant commis des actes de pédocriminalité, si un évêque est convaincu de négligence et il a obligé des évêques à démissionner, c'est prévu dans le texte. Voilà. Après, il y a la théorie et la pratique. On a eu le cas, mais parce que c'est destiné à des pour des adultes, c'est différent en fait. Normalement, tous ceux qui sont mis en cause, les enquêtes doivent être réalisées par des personnes proches. Voilà. Mais on a eu le cardinal Ouellet qui était à Rome pendant tout un temps. Il a été mis en cause dans des pays, au Québec, au Canada, et les enquêtes ont été réalisées par, il faut bien le dire, par un proche du cardinal Ouellet. Ça a été reproché par des associations de victimes en disant finalement il y a des paroles, il y a dans les discours c'est formidable, et dans la pratique les proches du pape François, ben finalement on aimerait bien que de la parole aux actes ça se transmette réellement. Voilà. Mais c'est vrai qu'il a été extrêmement engagé sur tout un dans tout un tas de questions. On peut lui reprocher aussi, effectivement, de ne pas avoir reçu des représentants de la SIAZ. Ça a été très clairement, on a savonné la planche à Rome sur la question de la SIAZ.
Ça fait partie en tout cas des gros dossiers que le pape François a eu à gérer. On va continuer d'en parler du pape François, de son héritage. Restez avec nous dans une minute, le point sur l'information africaine.
L'exposition Mission Dakar Djibouti 1931-1933 contre-enquête jusqu'au 14 septembre au musée du Quai Branly Jacques Chirac explore l'une des missions ethnographiques les plus emblématiques et revisite les conditions de collecte et les récits de cette traversée de 14 pays africains. Ces contre-enquêtes interrogent les enjeux mémoriels et scientifiques. Mission Dakar Djibouti 1931-1933 contre-enquête à découvrir jusqu'au 14 septembre au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Plus d'informations sur quaibranly.fr en partenariat avec France Média Monde.
Ce mardi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Gerbrand.
Pour augmenter les budgets militaires, l'Europe repense ses priorités. Le Royaume-Uni a par exemple décidé de réduire son aide au développement, mais une partie de cette aide est consacrée à la transition climatique. Comment concilier urgence climat et urgence défense ? Le débat est ouvert.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU sur RFI.